vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Un an après le début du second mandat de Trump, nous commençons à réaliser l'effet de ce virage autoritaire sur la politique, mais aussi sur la science. Le gouvernement, avec ses gels de financement et sa politique conservatrice, fait pression sur les universités américaines. Cela a un impact sur la recherche qui se fait là-bas, comme ici, et également sur la liberté académique, à commencer par l'accueil des étudiants étrangers. De nombreux scientifiques américains ont annoncé leur intention de trouver une nouvelle terre d'asile, et cela pourrait bien être le Canada, avec des fonds pour des chaires d'excellence en recherche destinées à attirer des chercheurs renommés au Canada. La ville de Montréal souhaiterait aussi devenir une destination de choix pour la recherche et l'innovation en attirant de jeunes chercheurs doctoraux et postdoctoraux avec des bourses. Alors, quel est l'impact réel de Trump sur les universités américaines, mais aussi les nôtres? Nous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous voulons prendre des nouvelles des universités canadiennes et américaines en cette période d'incertitude où les États-Unis soufflent le froid et le chaud sur bien des aspects de la géopolitique mondiale. J'en parle avec le professeur Yves Gingras, professeur d'histoire et de sociologie des sciences et directeur scientifique de l'Observatoire des sciences et des technologies de l'UQAM. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie du professeur Vincent Larivière, titulaire de la chaire UNESCO sur la science ouverte de l'Université de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Donc, depuis un an, le gouvernement américain secoue la géopolitique mondiale, mais aussi le monde de la recherche académique. Ce vent conservateur et autoritaire touche plus particulièrement certains domaines de recherche, comme le climat, l'immigration ou encore la santé féminine, des disciplines qui sont plus ciblées par les politiques de Trump. Cela tourne parfois même au bras de fer avec de grandes universités américaines, telles que l'Université Columbia ou l'Université Harvard, sous les menaces de coupures de budget. Certaines négocient, certaines se mobilisent, en fait mobilisent les cours de justice afin de gagner leur cause. Ce climat d'inquiétude peut même avoir des répercussions au sein de nos propres universités, comme nous allons le voir. Professeur Larivière, je vais commencer avec vous. Nous étions parlé il y a à peu près un an au début du mandat de Donald Trump pour discuter de certaines menaces sur la recherche universitaire, vous vous souvenez?
Ben oui.
Je aimerais savoir où en sommes-nous un an plus tard au sein justement des universités, d'abord peut-être américaines, puis les nôtres aussi?
Ben, disons que les attaques ont continué. Mm-hmm. Évidemment, il y a beaucoup de trucs qui suivent leur cours. Ils vont en parler tantôt en justice. Donc, il y a encore énormément d'incertitudes. Comme on avait mentionné, il y a des offres pour des étudiants des cycles supérieurs qui n'ont pas lieu. Donc, il y a des travaux de recherche qui n'ont pas été menés. Et dans l'ensemble, on peut dire ça. Oui. Les coupures, en toute probabilité, vont être moins importantes que ce qui était mentionné au départ, entre autres. Justement, parce que Trump n'a pas le contrôle complet sur tout, mais il y a quand même une baisse des investissements en recherche ou en développement, qui ne sont pas aussi élevés, qui vont être de 3-5%, mais qui sont quand même importants. Mais ça s'inscrit quand même sur la longue durée, parce qu'il faut rappeler le rôle des États-Unis dans l'espace scientifique mondial, qui était la seule puissance pendant quand même quelques décennies, qui représentait presque la moitié des articles ouais. scientifiques écrits à l'échelle mondiale. Puis là, on est à 25%. Fait que c'est
des trucs il y a une régression.
Ben oui, mais qui ne date pas de Trump, qui est sur la longue durée avec la montée de la Chine, qui aujourd'hui, il faut le rappeler, publie 50% de plus d'articles en anglais que les États-Unis. Donc, les attaques continuent, mais on sait pas encore exactement où tout ça va atterrir exactement, mais ça risque d'être moins pire que ce qu'on voyait il y a 6 à 8 mois, disons.
Ça va être moins économique et plus idéologique?
Ben effectivement, l'attaque elle est double. Donc il y a des sujets de recherche. J'ai testé dernièrement l'engin de recherche des NIH. Donc pour chercher des informations sur le site de la NIH, il y a encore des mots qui sont censurés. Donc ces éléments-là sont cumulatifs.
L'Institut national de santé,
oui. Oui, exactement. Donc ces éléments-là sont cumulatifs. Donc on voit des trucs qui sont un peu plus ciblés à la tête du client. Comme on pourrait dire.
Ouais, selon les sujets, finalement.
Et l'humeur du moment, et puis la frustration matinale ou en soirée.
D'accord. Professeur Gingras, pourquoi les universités sont-elles dans le viseur de Trump?
Ah, ça, c'est compliqué. C'est que, à mon avis, il est aussi très, très, très influencé parce que celui qu'on voit, on n'insiste pas assez, qui est le vice vice-président Vance. Mm-hmm. Il faut se rappeler qu'il y a quelques années, Vance a dit « The universities are our enemies ». C'est une phrase courte et parfaitement claire. Les universités sont nos ennemis. Donc, c'est lui qui a développé cette affaire-là. Et là, ensuite, on mélange tout parce que là, on dit et on cherche des raisons. Ah, on coupe Harvard parce qu'ils sont antisémites. Je veux dire, c'est complètement absurde que Harvard soit antisémite. Je veux dire, non, la quantité de professeurs juifs, d'étudiants juifs à Harvard aujourd'hui, voyons donc, il y en a plein puis c'est dans les meilleurs. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc, c'est un peu imprévisible. C'est totalement idéologique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a des universités qui se tiennent debout comme Harvard, et il y a des universités qui ont plié comme Columbia. Quand on dit, OK, on deal, on veut absolument notre argent. Parce que, bien sûr, si on coupe totalement les budgets, les universités s'arrêtent. Parce qu'il faut rappeler que la recherche universitaire de nos jours, partout, c'est d'abord l'État. Hein? Mm-hmm. On parle de philanthropie, mais ça, c'est 3 % à 5 % du total. Ça a toujours été l'État depuis la Deuxième Guerre. Donc, si l'État dit, j'investis plus dans les universités, la recherche, même Harvard, c'est fini. Okay? Donc, Harvard, tant mieux, a dit non, on va aller en cours. Parce qu'il faut rappeler une chose, c'est qu'on regarde Trump, mais la réalité aux États-Unis, c'est encore une démocratie. Ça va peut-être devenir une dictature, là, on verra. Mais pour l'instant, c'est une démocratie. Oui. Ça veut dire que c'est le droit. Or, en cours, c'était prévisible, Harvard a gagné. Ensuite, évidemment, Trump et son équipe ont allé en appel. Il y a 3-4 jours environ, ils ont dit, OK, il a perdu en appel aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois. Si on vous a donné à la NSF une subvention en 2024 jusqu'à, disons, 2027, bien, le contrat a été signé en 2024. Donc, il y a une entente qui a été signée. Si en 2028 ou 27, il dit, OK, je change le contrat, il va être capable de le faire. Mais oui. Là, la Cour a dit, bien, non, là, tu redonnes cet argent-là, tu dégèles ça, c'est pas toi qui décides. Pourquoi? Parce que les budgets sont décidés par le Sénat et le Congrès. Le budget, c'est pas Trump. C'est le budget, c'est le Sénat et le Congrès. Donc, alors que Trump demande actuellement 40 % de coupure à la NIH, on va avoir le budget de la NIH d'ici la fin janvier. Je peux vous prédire que ce ne sera pas 40, ça va être à peu près 3 à 5 au maximum. La preuve, c'est qu'en novembre dernier, il y a eu le premier des budgets qui incluait le budget de recherche sur l'agriculture. Culture et l'alimentation. Trump avait demandé qu'on coupe de 38 % le budget de R&D. Le Sénat et le Congrès ensemble ont fait un nouveau budget. On dit non. La coupure en Food and Drug R&D, la recherche et le développement, va être égale à 0 % Donc, ça a été zéro. OK? Et là, il a annoncé il y a quelques jours qu'à la NSF, ça va être de 3 %, 3,5 pour être précis, et non pas 38 ou 40 %. Donc, on peut prédire sans se tromper, puis ça, c'est vrai depuis Reagan des années 80. Les Républicains veulent couper la R&D à l'université. En pratique, c'est jamais arrivé depuis Reagan. Et ça n'arrivera pas. Et encore récemment, quand on se souvient que Trump a dit, OK, les frais indirects, c'est un peu compliqué, mais dans la recherche, il y a des coûts administratifs. Donc, c'est ce qu'on appelle les frais indirects de la recherche. En moyenne, pour certaines universités, c'est à 50 %.
Même plus.
Et même 55. Donc, ça, c'était... Chaque université, il y avait un contrat qui négociait individuellement selon la recherche. Si la recherche est en sciences humaines, les frais indirects sont un peu moins élevés que si c'est en biochimie parce qu'il y a des souris, il y a des produits, donc ça coûte cher. Et donc, lui a dit, OK, c'est trop compliqué, cette affaire-là. On ramène ça à 15 %. Alors, c'était facile à prédire. Il ne peut pas faire ça, parce que c'est un contrat. Et donc, qu'est-ce que la Cour a dit? La Cour a dit, non, tu ne peux pas amener ça à 15. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a des règles, et si tu veux changer les règles, il y a des procédures. Donc, très bureaucratique, les États-Unis. Si tu as sauté une règle, ça ne marchera pas. On peut prédire qu'à la fin du budget, il n'y aura pas beaucoup, beaucoup de coupures aux États-Unis. Puis quand on dit que la coupure est de 3 % à la NSF, il faut rappeler que le budget canadien de M. Carney a coupé 2 % à tous les fonds de recherche. Donc, les budgets, il faut rappeler que le Canada, et c'est vrai pour les États-Unis, mais encore plus pour le Canada, le déficit est astronomique et on veut augmenter le budget de la recherche, le budget militaire. Donc, on va augmenter les budgets militaires et le déficit est total. Donc, les coupures de 2 % aux trois fonds canadiens, il faut s'attendre que dans les années à venir, il n'y aura pas des grandes augmentations. Je prédis même qu'il va y avoir soit une stabilité, ça veut dire une baisse en termes réels, ou une coupure supplémentaire.
Ou bien ce sera des programmes ciblés, un peu comme ce qu'on voit donc,
oui,
à l'échelle
fédérale. Mais pas avec plus d'argent, avec le même argent, mais réorienté.
Oui, effectivement. dans le cas du budget, c'est plus d'argent. Donc, c'est une nouvelle enveloppe de 1,7 milliard, mais qui est ciblée pour une seule politique.
Oui. Professeur Larivière, est-ce qu'on constate des changements du côté des universités canadiennes et québécoises? En d'autres mots, est-ce qu'on fait moins de science avec nos collègues américains depuis tout ça, puis ça vient compliquer les choses?
Il n'y a pas énormément. Mais évidemment, encore là, il y a une tendance à long terme. Donc, une diversification des partenariats. Les scientifiques canadiens ont été, d'une certaine façon, dépendants de ce qui s'est fait aux États-Unis pendant plusieurs décennies. Là, on voit une augmentation puis une diversification des partenariats, pas juste avec la Chine, mais bon, aussi avec l'Afrique, etc. Mais on ne voit pas encore dans les données, si vous voulez, un effet de fin 2024. Donc, ça va prendre quand même quelques années. Maintenant, il y a eu un petit déclin des financements américains au Canada. On en a déjà discuté, mais tu sais, sur l'ensemble du volume, c'est des poussières de financement. Évidemment, pour les projets individuels qui ont vu leur financement arrêter, c'est un enjeu important, mais à l'échelle globale, c'est pas les États-Unis qui financent directement le Canada ou le Québec.
Non.
Par contre, il y a quand même, dans certains domaines, 30-35% des articles canadiens qui sont écrits avec les États-Unis. Donc, il y a une certaine dépendance. Ouais. On sait pas encore... On peut prédire que
mais
ça pourrait
budget.
Réduire. Mais...
Il y a eu le budget de M. Carnet qui nous donne un petit peu des indices sur ce qui s'en vient, justement, l'argent mis dans le militaire.
Oui, exactement. Puis là, évidemment, on essaie d'orienter vers de la R&D militaire puis voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte que des dépenses en recherche scientifique soient considérées comme étant des dépenses militaires. Je ne sais pas jusqu'où ça va pouvoir aller. Mais bon.
Passer de l'EDI au militaire, ça me paraît un grand écart quand même, beaucoup. Là.
Oui, quand même.
Professeur Gingras, les coupures donc, au sein de la science américaine s'annoncent plus modestes que ce qui a été craint. Donc, vous l'avez rappelé qu'on parlait plus de 35% au National Institute of Health, l'Institut américain de santé, mais sans doute une coupure plus modeste. Dans ce climat d'incertitude, le Canada aimerait bien attirer des chercheurs américains de renom à venir au pays. Le gouvernement est prêt à ouvrir les cordons de la bourse avec la création de nouvelles chaires de recherche pour attirer des chercheurs de haut calibre, francophiles et francophones. Donc, parlez-nous de...
Écoutez, moi je pense que quand on fait... D'ailleurs, il faut peut-être rappeler que quand on fait une politique scientifique, il faut regarder le tableau global et la structure de la recherche. Une politique scientifique s'est fondée sur des organismes de recherche. Dans le cas du Canada, c'est le Conseil de recherche en sciences nationales et en sciences naturelles et génie, les instituts de recherche en santé, puis le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. C'est les trois. Donc, si on dit, on a d'autres types de programmes, en gros, ce sont le fondement parce que c'est ça qui est les trois organismes de recherche continue. Hein, tous les 3-5 ans, vous faites une demande de subvention, c'est la base. Ensuite, il y a des programmes plus ciblés. On pense à génomique ou à la limite, ils vont nous casser les oreilles encore avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est des domaines ciblés, mais il faut la base. De l'autre, c'est que les universités, il faut rappeler que ça relève des provinces. Donc, le budget total des universités, ce sont les provinces. Donc, c'est eux qui payent normalement les salaires des professeurs. Le problème avec les nouvelles chaires, c'est qu'ils s'imaginent amener des Américains ici. Et si c'est dans des domaines de sciences dures, ils vont leur donner leur laboratoire avec quoi? On vient de couper les fonds des trois organismes subventionnaires, ce qui veut dire qu'on va augmenter la compétition pour avoir les subventions, on a moins d'argent. Donc, le taux de réussite, est-ce qu'il va être moins élevé?
Oui.
Donc, c'est un peu irrationnel et surtout, c'est une fuite en avant parce que les recteurs des universités du Québec qui se sont dit qu'il faut profiter d'une conjoncture spécifique comme s'il y aurait plein d'Américains qui s'en viendraient ici. Ça, c'est curieux, mais c'est arrivé au moment même où, au Québec, le budget du gouvernement du Québec coupait environ 100 millions des universités québécoises. Or, on n'a pas entendu les recteurs sortir sur la place publique pour dire, au Québec, le gouvernement doit investir dans les universités. Au lieu de dire ça, on s'est dit, profitons de la manne américaine, ce qui est une absurdité, parce qu'après une chaire de recherche du Canada au bout de 5 ans, quand la chaire est finie, 5 ou 10 ans, peu importe, le salaire doit être payé par l'université. D'où va venir le budget de ces soi-disant professeurs célèbres et leur budget de recherche? Parce que rappelons qu'aux États-Unis, la NIH est un budget de 49 milliards de dollars. Donc, même si on coupait 5%, il y a pas mal plus d'argent de R&D aux États-Unis qu'il y en a au Canada. Donc, je pense que la politique canadienne, qui a été suivie d'ailleurs au Québec par la ministre de l'Enseignement supérieur, qui a annoncé aussi la création d'un certain nombre de chaires, comme si on allait amener au Québec des gens. Or, au Québec, on forme des gens au doctorat, au post-doctorat, au Canada aussi. Donc, c'est un peu une insulte à toutes les universités canadiennes qui forment des universitaires, qui envoient un post-doc aussi en Angleterre, en France ou ailleurs, comme si les Américains. Donc, c'est une forme de colonialisme typique des Canadiens comparés aux États-Unis. Et donc, en un mot, la politique canadienne et québécoise actuellement, c'est une politique irrationnelle. Parce qu'elle est fondée sur amener des gens alors qu'on coupe les budgets. Si on avait une grande augmentation des budgets, on dit « OK, on a beaucoup, beaucoup d'argent, on va amener des nouveaux gens ». Ce n'est pas le cas du tout. Les universités ont des réparations de l'infrastructure à faire qu'elles ne sont même pas capables de faire. Donc, ça me semble vraiment irrationnel ce qui se fait actuellement dans les universités, dans les politiques gouvernementales tant au Québec qu'au Canada.
J'ajouterais peut-être quelques trucs là-dessus. Mm-hmm. Évidemment, dans tout ça, il y a l'idée que les profs, c'est un peu comme des électrons libres qui seraient aussi bons peu importe où ils sont. Or, dans le système américain, les scientifiques ont accès à certaines formes de financement, ils ont accès à des étudiants, des étudiantes. Or, on va les amener ici en les amenant dans le contexte canadien qui n'a pas les mêmes ressources globalement. Puis comme Yves l'a dit, il y a une compétition, puis les montants sont moins élevés quand même au Québec et au Canada. Donc, en fait, nos données, ce qu'elles montrent sur cette question-là, parce qu'on a regardé, quand on amène un Américain au Canada, est-ce qu'effectivement, il est aussi bon que là-bas? Mais non, il y a une baisse de 20 % on pourrait dire, de sa performance, parce que là, il rentre dans le système canadien avec les conditions. Puis on est un peu revanchard, je pense, aussi, dans cette politique-là. On va faire le coup aux Américains, ils nous volent des scientifiques depuis des années. Ah, ça va être à notre tour. Mais... Puis bon, je peux comprendre dans la situation actuelle, peut-être, de vouloir faire ça, mais c'est une mauvaise politique, c'est une fausse bonne idée. Puis un élément d'équité intergénérationnelle que Yves a un peu mentionné, on forme 8000 étudiants de docteur, 8000 nouveaux docteurs au Québec, au Canada, puis on va dire à ces gens-là, ben vous, on vous engage pas, vous passez votre tour, vous n'êtes pas de la bonne génération. À la place, on va aller chercher des gens en fin de carrière des États-Unis.
Vous êtes moins bon, et ça, c'est très important, c'est qu'on oublie qu'il y a de l'idéologie, c'est que si on dit que les Américains sont meilleurs, sur quelle base, là? Moi, j'ai fait mon postdoc à Harvard, j'ai vu qu'à Harvard, là, il y a des gens qui sont bons là, puis il y a des gens qui sont pas bon. FFOF, je suis allé au MIT. Donc, il ne faut pas penser que c'est américain, donc c'est meilleur. Donc, il y a une forme de colonialisme canadien dans cette histoire-là qui est derrière cette idée absurde que ces gens-là vont arriver. Et là, on a mis de l'avant, c'est le cas de l'Université de Toronto. On a eu Timothée, je ne sais plus trop
Snyder
qui a quitté Columbia. Timothée Snyder, so what? Hein? Il nous dit quoi? Il faut aller lire ses livres. Je ne pense pas qu'on a eu le plus grand génie qu'on a amené, surtout que dans son livre, il dit qu'il faut résister. Or, il résiste à Trump comment? En immigrant à Toronto. C'est pas très fort comme message.
Oui, ben c'est ça. Selon un sondage, il y avait de nombreux scientifiques basés aux États-Unis qui avouaient craindre les changements de politique surtout et qui disaient donc qui envisageaient de quitter le pays. Est-ce que vous pensez que ça pourrait vraiment se faire? Est-ce qu'une fuite des cerveaux américains...
En volume, il y a au moins 10 fois plus de scientifiques aux États-Unis qu'au Canada. Donc, on peut en absorber des tonnes. Ouais. Mais je pense aussi que les collègues américains, dans certains cas, vont peut-être un peu déchanter quand ils vont voir les conditions salariales, etc., qui existent au Canada. Les salaires sont sans commune mesure avec ce qui est octroyé aux États-Unis. Vraiment, on a des collègues qui gagnent le double, voire le triple de ce qu'on peut gagner au Canada. Donc on peut dire, j'ai peur de Trump, mais là, money talks, comme disent les Anglais.
Il faut rappeler qu'aussi, quand Trump a été élu pour la première fois, moi, comme Vincent, on a nos relations de collaboration avec les Américains, puis dès la première élection de Trump, j'ai entendu des grands chercheurs que je nommerai pas, si Trump est élu, si je vais immigrer au Canada. Je dis, OK, ça, c'est une blague, cette affaire-là. OK? Fait que là, c'est un peu la même chose. Mais ici, il faut rappeler, on va prendre un autre exemple qui est celui de la France. Il y a un président d'université du sud de la France qui s'est pété les bretelles en disant, j'ai trouvé de l'argent, on ouvre le programme, Choose France, venez en France, les Américains. Et ça, c'est l'université où je suis allé, moi, comme professeur invité. Et quand je suis arrivé à cette université-là, j'ai dit, est-ce qu'on est ici après la Deuxième Guerre mondiale? Je leur ai dit, pourquoi? Parce que je suis arrivé dans un édifice où il y avait des filets pour pas que les tuiles des murs tombent. Et ça, c'est cette université-là qui avait trouvé 10 millions d'euros pour amener les Américains, alors que le budget interne est même pas capable de réparer les édifices. Mais les gens s'en aperçoivent pas parce qu'ils vont pas voir le campus. Il y a d'autres d'autres universités où j'ai été comme professeur invité, où l'été dernier et l'hiver dernier, ils ont fermé l'université pour épargner sur le chauffage. Donc, les profs ne pouvaient même pas aller à leur bureau. Fait que souvent, les présidents d'université, là, ils font du marketing. Ils se présentent, puis les naïfs pensent que c'est vrai ce qui se passe là. Mm-hmm. Alors, ce professeur-là, moi, j'ai écrit à des collègues en France, j'ai dit, écoutez, vous laissez ce président-là dire ça, alors que vous savez très bien que les universités en France sont quasiment en faillite aussi, et ils ferment des bureaux pour chauffer. Donc, c'est un peu scandaleux ce qu'on voit avec une forme d'hystérie collective, de fuite en avant des universités, pas uniquement ici, mais en France aussi, oui, et dans d'autres pays.
Donc, ça pose le problème des financements des universités à la base, en
c'est
fait.
C'est clair. Voilà. C'est clair. C'est, ça pose le problème, ben, Yves l'a mentionné pas mal, c'est la politique scientifique globale du pays. Il faut avoir une politique qui est cohérente. Puis ce qu'on peut dire, c'est qu'en ce moment, cette politique-là qui est proposée, qui est le seul ajout au budget, en fait, pour la science du nouveau budget, c'est pas cohérent avec ce que l'on fait par ailleurs, avec les politiques de formation, puis avec, disons, c'est pas quelque chose de transformatif. Avec 1,7 milliard, là, on peut en faire des affaires.
Ben oui, exactement. Puis en plus, on oublie les effets pervers. Parce que comme je l'ai dit, c'est bien important. C'est que si je dis, toi, je te donne donc 1 million pour que tu embauches des profs pendant 5 ans. Toi, tu es content, puis ça ne te coûte rien actuellement pendant 5 ans. Après, il faut que tu les absorbes. C'est toi qui vas payer la suite. Ben, je ne l'ai pas là. C'est comme si on donne un château. J'ai, il est beau le château, mais je n'ai pas l'argent pour les payer, moi.
Mais c'est peut-être le temps d'un mandat, parce que n'oubliez pas que Trump a décrété aussi au début de son mandat, je vais retrouver dans mes notes, il y a beaucoup d'interférences politiques du côté de l'éducation. Il avait fait un décret visant à éliminer le ministère de l'éducation américain. Oui. Donc ça, c'est quand même un coup de semonce très fort pour quelqu'un qui travaille dans l'éducation. Et je peux comprendre qu'on a envie de s'en aller parce que ce n'est pas un bon signe.
Oui, mais l'enjeu, peut-être un point là-dessus, parce que vous parlez, c'est le temps d'un mandat. Pour que d'une telle politique ait un effet, je parle de la politique d'invitation des chercheurs américains, il faut que les gens restent. Et donc, il y a un élément dans tout ça où le Canada, c'est pas un asile temporaire.
De solidarité.
Après ça, les gens...
Mais il y en a beaucoup qui s'en vont. Déjà, on a des données sur des chaires où après un mandat, souvent, ils retournent. Je me souviendrai toujours à UBC, le 7-8 ans, j'oublie un exact, ils ont fait une grande annonce. Écoutez, on vient d'embaucher un prix Nobel de physique américain qui s'en vient à UBC. J'ai dit, bon, OK, c'est quoi, Joe? Hein? Ben, au bout de 2 ans, il retourne aux États-Unis.
Ben oui, exact. Parce que justement, il y a cette compétition-là. Puis si c'est essentiellement une question d'argent, puis malheureusement, ça l'est avec ce programme-là, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner sur le long terme parce qu'on n'a pas, les ressources. Donc, un tel programme, le 1,7 milliard, là, on le prend puis on crée un programme de chaire junior où on absorbe nos 8000 doctorants et l'effet va être massif.
Exactement, entièrement d'accord.
Mais je me souviens que vous aviez déjà dit, professeur Larivière, que vous aviez fait une partie de vos recherches aux États-Unis. Pensez-vous que justement qu'on devrait trouver des alternatives pour les stages de nos jeunes chercheurs au doctorat et post-doctorat qui, eux, aimeraient aller aux États-Unis, puis là...
Mais en ce moment, ils n'aimeraient pas aller aux États-Unis. Effectivement, mais c'est une diversification, absolument. Oui. Donc, ce qu'on voit en ce moment, c'est une diversification des partenariats. Et l'idée, je pense que le Canada est dans une situation où on est un pays assez fort scientifiquement, où nous, on peut devenir l'endroit où les gens, donc les post-docs, avec plaisir qu'on accueille ça, les jeunes scientifiques avec plaisir. Donc, c'est nous qui pouvons être l'alternative aux États-Unis pour recevoir les gens. Et nous, on peut envoyer nos stagiaires post-doctorants à l'extérieur des États-Unis.
Donc, pas des seniors, mais plus des juniors.
Ah, c'est la clé. Ben oui. C'est la clé.
Mais pour les accueillir, il nous faut des ressources. Et le point qui est important que Vincent a mentionné au début, c'est que la Chine est cruciale. Et donc, augmenter nos relations, par exemple, Vincent, tout comme moi, on a des chercheurs de Chine qui disent, OK, je vais venir faire une année de... Parce qu'ils ont beaucoup de programmes en Chine pour envoyer un équivalent, disons, d'une forme de sabbatique ou de postdoc pour envoyer des gens à l'étranger. Et donc, il y en a qui s'en viennent nous voir. Donc, les collaborations scientifiques avec la Chine vont être importantes. Mais maintenant, ils sont limités par des raisons idéologiques. On dit, attention, il y a une politique canadienne sur l'espionnage qui nous oblige à dire, mais là, si tu travailles avec un individu, es-tu sûr que c'est pas un espion? Comme si nous, on était là. Donc, ça limite aussi la liberté académique pour des raisons de espionnage, etc. Il y a une conséquence sur la liberté académique. OK? Il y a même dans il y a quelques mois, on nous a envoyé un email, je sais pas d'où ça vient, j'étais un peu surpris, qui disait de pas utiliser DeepSeek. Ben, je m'excuse, mais moi, j'utilise DeepSeek comme j'utilise ChatGPT. DeepSeek, c'est l'équivalent de ChatGPT chinois. Ça nous permet de comparer les réponses, de voir à quoi il répond. Il y a une belle sociologie à faire en comparant les deux. Donc, on a reçu un email disant qu'on ne pouvait pas l'utiliser. Mais pourquoi qu'on nous laisse utiliser ChatGPT si on ne nous laisse pas utiliser DeepSeek? Donc, il y a beaucoup d'idéologie dans ça qui peut affecter la liberté académique.
Donc, il y a des pistes vers la Chine. Professeur Larivière, comment on peut conserver quand même l'indépendance des universités face aux changements politiques? Tout en soutenant leur développement et l'avancement scientifique, évidemment.
C'est une question vaste, mais évidemment on parle des universités canadiennes et québécoises qui ont une autonomie par rapport à l'État. Ce n'est pas les universités françaises où c'est un système qui est beaucoup plus centralisé. Donc, on a en ce moment des règles qui, j'aurais tendance à croire, au Québec, au Canada, qui fonctionnent assez bien. On a la loi sur la liberté académique au Québec, mais pas seulement. Donc, je dirais qu'on a ce qu'il faut. C'est, à mon avis, il n'est pas là l'enjeu. L'enjeu en ce moment, on revient à la question américaine, c'est de dire comment on peut développer une politique scientifique canadienne, comme dans plein d'autres aspects, qui soit autonome, disons, peut-être un peu plus indépendante des relations qu'on avait avec les États-Unis. Puis c'est la même chose comme politique économique, une politique de l'Arctique qui ne prend pas en compte les États-Unis, ou en tout cas qui reconfigure les relations. C'est tout, avec la relation avec les États-Unis qui change, tous les sous-types de relations, que ce soit scientifiques, technologiques ou géographiques, liés à d'autres aspects de la société, sont influencés. Donc, c'est ça qu'il faut repenser en profondeur.
Oui. Donc, professeur Gingras, vous l'avez dit, les États-Unis restent une démocratie. Nous avons parfois tendance à l'oublier. Donc, normalement, il n'est pas possible pour un gouvernement d'outrepasser les lois et les règlements. Comment rester confiant que la place des universités au sein de cette démocratie ne sera pas mise quand même en danger?
Bien, il faut rappeler d'ailleurs que la grande date, là, c'est le mois de novembre 2026 qu'il va y avoir les élections. Alors, tout le monde prédit, on verra, que les républicains vont perdre le contrôle de la Chambre des représentants, peut-être celle du Sénat, on ne sait pas trop. Déjà, là, il y avait un ou deux votes de plus, puis il y en a un qui vient de prendre sa retraite. Mais voyez-vous, le pouvoir, ça va devenir ce qu'on appelle aux États-Unis un lame duck, et sauf que lui, c'est un lame duck qui est dangereux, donc il peut faire des choses lui-même. Okay? Donc, les universités, il faut rappeler quand même, ils ont été créés au Moyen-Âge, ils ont résisté aux contraintes du pape, aux contraintes des États, et donc ils vont continuer à survivre et ils vont réatteindre leur défense parce que Trump, il n'est pas là à vie. Et ceux qui, au Canada, on entend souvent certains états dire « Ah, il faut être vigilant, il ne faut pas comparer exactement comme Vincent disait. » Au Canada et au Québec, on n'a pas encore de problème là, d'intervention étatique et rationnelle comme aux États-Unis. Les universités sont autonomes, en principe, parce qu'ils sont de niveau provincial, pas de niveau fédéral, bien que le niveau fédéral s'immisce pour essayer de contrôler les embauches par la création de chaires. Donc, c'est une intervention, ça, que les universités aiment bien parce que c'est de l'argent.
Okay? Oui,
mais il n'y a aucune comparaison, je pense, entre ce qui se passe au Canada dans les universités et aux États-Unis, sauf que les budgets n'augmentent pas rapidement pour des raisons de déficit accumulé dans les deux pays.
Merci beaucoup, vous l'avez entendu. On était en compagnie de Yves Gingras, professeur d'histoire et de sociologie des sciences et directeur scientifique de l'Observatoire des sciences et des technologies de l'UQAM et du professeur Vincent Larivière, titulaire de la chaire UNESCO sur la science ouverte de l'Université de Montréal. Merci à tous les deux.
Avec plaisir.
Merci.
Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio-VM. Comme toujours, à la régie de cette émission, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, la réalisation, le micro, Isabelle Burguin. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. Réécoutez-nous aussi et suivez pour ne rien manquer la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse à sciencepresse.qc.ca. En attendant de replonger dans les sujets de science, je vous souhaite de passer une très belle semaine à notre antenne.
Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique.